Bonjour Denis, bonjour à toutes et tous. Oui, je vous emmène en Haute-Maurienne, à deux pas à vol d'oiseau du Val de Suse en Italie, berceau historique de la lutte notave. 30 ans déjà de résistance à un projet de ligne et tunnel ferroviaire d'une autre époque. Une mobilisation citoyenne qui prend corps côté français et s'officialise d'écharpe tricolore en ce dimanche 4 septembre.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.
Bonjour à tous, bienvenue au Bourget. Les habitants du Bourget sont, enfin certains habitants du Bourget sont très très heureux de vous accueillir ici. Le mouvement a commencé il y a à peu près une semaine en bloquant les toupies de béton qui devaient alimenter le chantier de Telt. Eh bien on n'imaginait pas en arriver là aujourd'hui. Et je crois que ce n'est que le début de cette mobilisation. Même si c'est vrai, des amis italiens sont là, eux, ça fait plus de 30 ans qu'ils se battent contre ce projet inutile et ruineux. Je crois qu'en France, il est grand temps de nous mobiliser pour lancer une vraie dynamique et faire échouer, véritablement couler, ce projet.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Rappel des faits, depuis le 24 août à Villars-Audin-Bourget, des militants mènent des premières actions de blocage de camions toupies qui viennent livrer du béton pour un puits d'aération du chantier Telt, tunnel euralpin Lyon-Turin. Un chantier pharaonique et climaticide d'une autre époque qui risquerait d'assécher de nombreuses nappes phréatiques et dont la pertinence est très discutable. La grande vitesse, on se calme, c'est la fin de l'abondance. Et le report modal est déjà tout de suite possible sur la ligne existante qui est largement sous-exploitée. Le 30 août, les militants sont délogés par la gendarmerie et le président de l'association Vivre et Agir en Maurienne, Philippe Delhomme, ex-maire adjoint du village et professeur de collège à Modane, se retrouve en garde à vue. Et dimanche dernier, le 4 septembre, plusieurs centaines de citoyens, des députés français et européens, des élus locaux franco-italiens se sont retrouvés à Villars-Audin, au pied du Rocher des Amoureux, pour un rassemblement citoyen de soutien, pour dire non aux taves et pour que le climat sorte vainqueur de cette bataille.
C'est bientôt demain sur France Inter.
Non au Lyon-Turin, ensemble, insieme, notave.
Bravo! Merci! Grazie!
Il y a une banderole qui a été déroulée depuis le haut du piton rocheux, là, le rocher de l'amour.
Voilà, je crois que c'est un superbe clin d'œil pour l'unité entre les notaves italiens et puis les non au Lyon-Turin, les stop Telt français.
En fait, on a mis le drapeau français, non au Lyon-Turin, on a mis notable en italien, on a écrit ensemble et insieme, et on a mis des hommes pour qu'on soit unis, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les Italiens, on a besoin d'eux, mais c'est surtout qu'on est avec eux et eux sont avec nous. Quoi. Et voilà pourquoi on a voulu mettre ce petit symbole. On va après faire la petite balade, quoi.
On y va ? Allez, c'est parti.
Qu'est-ce qu'on voit, Philippe, là-bas, là, les grands pics, là ?
Alors, donc, en fait, là, ce sont tous les sommets de la montagne. Donc, ici, vous avez la pointe de la Norma, l'aiguille de Scolette, la pointe de Bellecombe, l'Adret et l'Ubac, et au milieu, il y a l'Arc. On a vraiment tous les aspects de la montagne, depuis l'étage montagnard jusqu'à l'étage nival. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que quand on va en montagne et qu'on grimpe, il suffit de grimper de 100 mètres, et c'est comme si on avait fait 100 km vers le nord. Et donc, on a des changements de paysage, de faune, de flore, et je pense que c'est ça que les gens apprécient en venant ici. Hein. Ils découvrent vraiment un univers comme une sorte de micro-planète sur place, voilà. On va véritablement, en fait, on va dire, de notre région tempérée vers le pôle Nord. Voilà. Donc là, il y a un petit sentier dans une forêt. Et puis, ça débouche, en fait, sur la vallée de l'Arc. Et on avait une vaste zone humide de 4 hectares qui était en fait des jardins avec un sentier avec des arbres. C'était très très bucolique. Et aujourd'hui, on a un immense plateau de béton, de ciment, de goudron.
Et le tunnel, il va comme ça ?
Donc ils montent. Alors c'est pas le tunnel, hein, c'est la galerie de reconnaissance.
Oui, mais
c'est... Donc ça. Non mais je vais
ouais, tout. Bah, alors explique tout.
Je, ouais, je réexpliquerai tout à tout le monde.
Il y a plusieurs dizaines de personnes, une centaine, qui arrivent avec des drapeaux, avec des pancartes. La vallée de la Maurienne sacrifiée, polluée, stop aux nuisances. Et Philippe va prendre la parole avec Kitsuno.
Donc nous sommes ici en plongée sur une zone qui s'appelle la zone du Moulin. Cette zone du Moulin fait 4 hectares. Ces 4 hectares sont très importants parce que c'est à la fois une zone humide et une zone d'expansion de l'Arc. Or, cette zone d'expansion, elle est très importante parce qu'elle protège Modane et Fourneau qui sont à l'aval en cas de crue. Cette zone humide qui était en fait faite de jardins, d'une route arborée, etc. Il y a une ripisylve. Une ripisylve, c'est-à-dire en fait des arbres le long d'une rivière. Eh bien, il y a, on va dire, 3 ans, ils ont commencé à décaper, enlever tout ce qu'il y avait dessus. Il y avait un moulin, ils ont détruit le moulin, ils ont fait une digue, et ils ont surélevé la plateforme de 5 mètres. S'il y a une future crue importante, Modane et Fourneau seront davantage inondés.
Vous êtes du coin, vous habitez par ici ?
Chaparian.
Ça, c'est la première chose.
Et quand on voit les dégâts sur l'eau qu'il y a ici, on se pose franchement des questions sur les dégâts sur l'eau partout. Donc on est très inquiet de la façon dont ils gèrent
les
problématiques de l'eau.
Là, sont sur le paysage, ils sont visibles.
Et en fait, là, ils creusent en plein sur des captages d'eau.
Mais ce qui est le plus grave, à mon sens, c'est ce qui est invisible.
Donc c'est lamentable. Voilà. On est là pour ça, on est très inquiet pour ça.
C'est-à-dire que véritablement, l'assèchement des sources est dramatique. Parce que ça ne se voit pas, mais la répercussion et les conséquences sont futures. On a mesuré les débits d'eau qui sont captés par les tunnels. Donc, il y en a un ici à Villarona-Bourget, un à Saint-Martin-la-Porte, un à La Pra côté français. Il y a une galerie de reconnaissance côté italien à Chiomonte, la Maddalena. Et je vous assure qu'à la Maddalena, si vous y allez, ça n'a rien à voir avec ici. Hein. C'est un camp retranché, c'est l'armée qui garde, en fait, ce chantier. Ça veut dire qu'il y a une opposition très, très forte en Italie. Donc, en fait, quand on va voir les maires, ils sont très préoccupés par cette ressource en eau parce qu'ils sont les garants, en tant que maires, d'alimenter leurs concitoyens en qualité, en quantité d'eau potable. Et ils se questionnent parce que si, véritablement, le tunnel se faisait, eh bien, c'est tout le versant qui serait asséché. Et que ça, donc, aggrave un autre phénomène. Et ce phénomène s'appelle la crise climatique, que nous avons largement subi, je pense, depuis le mois de juin. Donc, en fait, si on dit que les réservoirs souterrains vont être pompés par le TELT, tunnel Euralpin Lyon-Turin, les réservoirs aériens que sont les glaciers, les hivers de plus en plus courts et les sécheresses de plus en plus longues, vous comprenez bien qu'on va manquer d'eau. Donc, vous comprenez bien pourquoi est-ce qu'on se bat, car c'est notre survie, en fait, qu'on joue là. Parce que sans eau, plus de prairies, plus de forêts, plus d'agriculture possible, mais aussi plus d'hydroélectricité. Et plus de tourisme. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on est l'avant-poste, en quelque sorte, de la catastrophe à venir si ce projet avait lieu. Donc on va tout faire, nous, pour qu'il ne se fasse pas. D'où nos blocages de camions de béton. Voilà. Stop TELT.
Io arrivo dalla Val di Susa e da 30 anni abbraccio questa lotta.
Ça fait 30 ans que je participe à la lutte contre ce projet.
Che è completamente inutile.
Qui est complètement inutile.
Giovanni. En Italie, vous avez toujours lutté depuis 30 ans.
Ah, sì, des in Italia, 30 anni, sì.
Ça vous rassure, vous, qu'en France, tout d'un coup, il y a des mobilisations citoyennes?
Siamo fratelli.
Ma on est frères de lutte.
Io ho tanta speranza perché.
Moi, j'ai beaucoup d'espoir.
Quello che vediamo in questi giorni.
Ce que j'observe ces derniers jours.
Sì, hanno cominciato a capire.
C'est que les Français ont compris que cette lutte, elle doit être partagé.
Per il futuro dei nostri figli, dei nostri giovani.
Pour nos enfants,
non ci sarà.
Ce projet ne doit pas se réaliser.
C'est bien tôt demain. Antoine Chao sur France Inter.
Non, tu veux que ce soit spontané, donc.
Bon, ça s'arrose, hein, Daniel. Hein. Daniel Ibanez, quand même, une belle journée de mobilisation contre le Lyon-Turin.
Bah, une belle journée de mobilisation, mais surtout... un grand moment de fraternité, d'humanité, et puis surtout une grande journée qui nous réconcilie avec le monde politique. J'ai vraiment vécu une journée où on avait des représentants qui sont venus échanger avec la population sur un projet qui est l'illustration même de ce qu'est pour moi l'écocide. Et donc c'était vraiment un grand moment et de fraternité et de solidarité avec les personnes qui s'engagent, qui n'ont pas été programmées pour être des militants, mais qui s'engagent face à ce qu'on leur impose. Et là, c'était vraiment un beau moment.
Et il y a eu aussi une rencontre avec les Italiens, quoi, qui étaient là, les militants italiens, parce que il y a les deux versants, quoi. En Italie, la lutte a été vive depuis 30 ans, elle est vive, elle a, il y a eu beaucoup de répression contre les militants, coup de criminalisation, et on avait l'impression qu'en France, ça passait un peu sous les radars, quoi, hein, ces dernières années.
La résistance italienne, la répression contre le mouvement citoyen italien, masque, d'une certaine manière, tout le travail qui a été fait sur une opposition française extrêmement documentée, qui a produit énormément de documents et qui ne sont jamais ouverts, parce que, en fait, il faut de l'image, il faut de la répression. Et d'une certaine manière, cette journée qu'on a vécue aujourd'hui, peut-être que si la police n'était pas intervenue, la journée d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Si Philippe Delhomme n'avait pas été mis en garde à vue, cette journée n'aurait peut-être pas eu lieu. Et pourtant, elle avait tout autant de sens dans la dimension qu'elle avait aujourd'hui, c'est-à-dire avec des sénateurs, avec des députés européens, des conseillers régionaux, des maires, des conseillers municipaux, des associations, des syndicats professionnels, etc. Mais voilà, il faut un déclic et malheureusement, ce déclic n'est pas l'information qui montre que le projet est inutile, qu'il est écocide, qu'il draine et qu'il assèche les montagnes, mais le fait qu'on se soit fait déloger par les flics.
Et là, on dirait que ça reprend parce qu'il y a aussi des choses qui ont été révélées là et que vous avez révélées justement, notamment au sujet de l'eau, quoi.
Alors en fait, ce que l'on a fait, parce que ça fait plusieurs années qu'on demande quel est le débit des eaux qui sont extraites des galeries qu'ils ont creusées. Ils ont creusé plusieurs kilomètres de galeries. Grossièrement, on est à un petit peu plus de 10% de creusées. Et donc déjà, là, il y a beaucoup d'eau qui est extraite de la montagne. Donc on a demandé combien il en sort. Et la réponse ne vient jamais. Jamais. Alors on tourne autour du pot. Ne vous inquiétez pas, c'est rejeté dans la rivière en dessous, etc. Mais ce n'est pas la question qu'on vous pose. On vous dit combien. Et ça, il n'y a pas de réponse. Personne n'obtient la réponse. Donc on est allé, nous, à la sortie des buses. Et on est allé avec un fût de 100 litres. Donc, on est allé sous la première buse, il faut 5 secondes pour le remplir. C'est assez facile à voir, ça fait 20 litres secondes. On est allé sous la deuxième, on met le pot de 100 litres, enfin le fût de 100 litres, paf, instantanément il est rempli. Donc, on peut imaginer qu'il y a au moins 100 litres secondes. Et puis, on est allé à une troisième buse, et là, c'est 70 litres qu'on avait, parce que c'est en pente, on pouvait pas tenir 100 litres. Et là, c'est pareil, c'est rempli instantanément. Et donc, voilà, on a dit, ça fait environ 150 litres, c'est effectivement empirique comme manière, mais comme on n'a pas de mesure scientifique, au moins on sait ça. Et donc, ça fait 5 millions de mètres cubes. C'est-à-dire que quand on creuse dans la montagne, il y a forcément de l'eau qui coule par gravité. Alors, quelquefois, c'est parce qu'on a aussi percé une veine d'eau ou une poche d'eau. Et donc là, l'eau est récupérée, sinon ça s'inonde, hein, forcément, ce qui a été creusé s'inonderait. Donc il récupère l'eau et hop, il la remonte à la surface avec des pompes. En fait, il y a un rapport de la Commission européenne qui date de 2006 qui dit que de toute façon, si ce tunnel est fait, il y aura entre 60 et 125 millions de mètres cubes à l'année qui seront drainés. La question, c'est que la nature est incapable de recharger 60 millions de mètres cubes à l'année, ni même 40 millions. Voilà, parce que c'est des cycles qui sont extrêmement longs, bien évidemment. Résultat des courses, à l'échelle d'une vie humaine, 10 ans, 600 millions, 20 ans, 1200 millions de mètres cubes, etc., etc., etc. Et le résultat des courses, c'est que l'on peut dire que ce projet, si il était poursuivi, c'est-à-dire s'il débutait réellement, il assèche la montagne. Il y a un principe de la République qui dit que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement. Donc à partir du moment où on assèche une montagne, il ne peut pas y avoir de mesures compensatoires, on ne prend pas part à la préservation de l'environnement, on prend part à la détérioration de l'environnement, et ça, c'est interdit dans notre République. Il faut que le ministre de l'Environnement le comprenne, que la Première ministre, qui le sait d'ailleurs, le fasse appliquer, ce principe républicain, et interrompe ce chantier.
Daniel Ibanez, on s'est rencontré l'année dernière donc à la rencontre annuelle des lanceurs d'alerte que tu co-organises. Et là, est-ce que tu te considères comme lanceur d'alerte sur le Lyon-Turin ?
En fait, le mot important dans lanceur d'alerte, c'est le mot alerte. Donc le mot alerte, effectivement, c'est que quand il y a un écocide, il y a une alerte. Quand on risque de tarir des sources, il y a une alerte. Quand on risque de porter atteinte au captage d'eau potable qui servent à la consommation humaine, il y a une alerte. Quand il y a un mésusage de l'argent public, qu'il y a des conflits d'intérêts, il y a une alerte. Donc, à partir du moment où une personne alerte, comme on n'a pas de mot français pour dire alerteur, eh ben, on dit lanceur d'alerte. Donc, on me dit que je suis lanceur d'alerte, mais une grande caractéristique des gens à qui l'on dit « vous êtes un lanceur d'alerte », c'est qu'ils n'ont pas vraiment conscience d'être des lanceurs d'alerte, en fait. Ils respectent leurs droits de citoyens, voire même leurs devoirs de citoyens, à savoir l'intérêt général, à savoir les règles d'utilité publique. Et de fait, lorsque l'on dit que l'eau est en danger, que la montagne peut être asséchée, que la mafia était présente sur le chantier en Italie, et tout ça avec des documents, bien évidemment, eh bien, de fait, on alerte sur ces situations.
Et dans la foulée, une demande de commission d'enquête parlementaire sur le non-respect des lois sur l'eau du projet Lyon-Turin a été déposée par le député du Rhône, Gabriel Amar. Merci à Daniel Ibanez. Les prochaines rencontres annuelles des lanceurs d'alerte se dérouleront début novembre à la MSH, Maison des sciences de l'homme, Paris Nord. Toutes les infos sont sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr. Et on se retrouve dimanche prochain à l'antenne ou en podcast.